sauvage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'écoute de ce Canu Info du jeudi 10 novembre 2022. Je suis accompagnée, comme la plupart du temps, par Laurent ce soir.
Oui, bonsoir.
Ou c'est moi qui t'accompagne, je n'ai jamais su.
Personne n'accompagne personne.
Voilà, c'est bien. Nous sommes en démocratie, donc sur cette radio, en autogestion, tout ça, ouais, hein, vous
ça
savez
discute.
Comment... tout de suite, les débats polémiques, nous sommes dans une émission donc d'actualité de polémique, hein, vous le savez, dans les Canu Info. On va vous parler longuement, ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert par un sujet qui touche Israël et la Palestine, hein, c'était une des traditions, puisqu'il y a quand même des traditions des fois sur Radio Canu, de Laurent pendant de nombreuses années, et l'actualité s'y prétend, ce soir tu vas nous faire...
S'y prête.
S'y prête.
Ouais.
Ouais, ben, s'y prête, ouais. Tu vas parler longuement de Israël et de Palestine et de la situation.
Pas, mais je vais parler un petit peu.
En tout cas, tu vas nous parler de vieux croûtons. C'est ce qui est écrit sur mon petit papier. Après, on parlera de la ville de Lyon, de Good Planet, de la Nef, de biodynamie. Enfin, vous voyez où je vais en venir. Nous parlons ensuite de ni Dieu ni maître. Nous parlerons de projets inutiles, de chasse et puis d'autres choses si nous avons le temps. Mais nous verrons bien.
Donc oui, en cette journée où la France accueille enfin un navire avec quelques personnes dedans qui essayent de venir dans un endroit où la vie est un poil peut-être plus facile que chez eux. Il y a des bonnes nouvelles, donc je pense que c'est un poil plus facile que chez eux.
Ah ben c'est surtout que de l'autre côté c'est tellement pourri que c'est oui, il y a pas de comparaison. Oui.
Donc et toute l'hypocrisie qu'il y a autour hein, de chacun joue à son petit jeu. On va aller en Israël-Palestine où là aussi ça joue à des jeux et des jeux qui sont un peu comme chez nous, à celui qui joue au plus facho ou fait semblant d'être un peu moins facho que l'autre très facho. Enfin voilà, on a un peu la même chose qui se passe partout dans le monde. Donc sur Israël-Palestine, vous avez peut-être toutes et tous suivi cette 5e tentative d'élection en 3 ans. Alors c'est pas des tentatives, c'est des vraies élections en Israël. On rappelle que les élections sont libres en Israël. Il y a eu une victoire du côté de la droite, comme à beaucoup d'endroits dans le monde, dirons-nous, et notamment des partis religieux extrémistes juifs qui vont s'allier à Benjamin Netanyahou, qui va être le nouveau premier ministre, et qui vont peut-être changer des petites choses par rapport au gouvernement qui était qualifié de plutôt centriste qui était donc un gouvernement de centre-droit. Et quand on voit ces élections, on se dit il n'y avait pas de la gauche avant, tu sais, ils s'appelaient les travaillistes, tout ça. Ils sont passés où? Ah ben, ils sont plus là. En tout cas, ils sont morts. Ils ont disparu. C'est tristement triste. Hein. Je crois qu'il faut mettre au moins 3 fois le mot triste, même, pour y arriver, pour représenter la réalité des choses. Alors, une fois tous les votes comptés, on devrait être, dans ces partis religieux, à 14 ou 15 sièges sur les 120 de la Knesset. Ça paraît pas énorme comme ça, mais en fait ça l'est. D'abord, c'est la première fois qu'un groupe nationaliste religieux fait autant de scores. Alors c'est une coalition entre 4 listes, si j'ai bien tout saisi. Otzma Yehudit, qui ça se traduit par le pouvoir juif. Noam, qui est un truc très traditionnaliste sur les valeurs familiales, tout ça. Il y a l'Union nationale Tekouma, et il y a le foyer juif. Ça fait tout rêver, tout ça. On est du côté du nationalisme religieux, bien évidemment. Mais en fait, avec ces 14 ou 15 sièges sur 120, c'est le troisième parti. C'est une alliance, cette alliance, c'est le troisième parti à la Knesset. Donc le premier, c'est le Likoud de Benjamin Netanyahou, qui va faire alliance pour avoir une majorité avec ses nationalistes religieux. Et il reste en deuxième, Yesh Atid, qui est donc le ça veut dire, il y a un avenir, le parti du premier ministre de centre droit sortant, Yair Lapid. Voilà où on en est aujourd'hui en Israël. Donc les élections datent il y a quelques jours, hein, c'était peut-être le 1er novembre d'ailleurs. Et ce qu'on voit, hein, c'est que la grosse victoire, c'est la droite, l'extrême droite, les religieux, tous ces gens qui promeut une politique raciste, une politique fortement anti-arabe et anti-palestinien. C'est dans ce sens-là que le mot arabe est utilisé ici. Avec des trucs qui font peur, hein. Le pouvoir juif, donc le parti, alors le vrai nom, hein, c'est Otzma Yehudit, dirigé par deux personnalités, Bezalel Cherish et alors lui qui est devenu célèbre, Itamar Ben Gvir. Donc eux, ils sont ouvertement ultra racistes, hein, y a pas de souci là-dessus, et ils vont donc faire partie peut-être du gouvernement, puisque ces ultranationalistes religieux israéliens cherchent actuellement, c'est en pleine négociation, à obtenir des portefeuilles, notamment qui leur permettront de contrôler la Cisjordanie occupée. Puisque, si on regarde dans ses membres élus, il y en a quand même 9 qui n'habitent pas en Israël, mais qui habitent dans les colonies illégales implantées en Cisjordanie occupée. Donc ça donne un petit peu le niveau ce qui peut se passer. Alors on peut reparler de Itamar Ben-Gvir. Alors lui, c'est vraiment une ascension fulgurante, hein. Je pense que pas grand monde le connaissait, même en Israël, alors nous encore moins. Donc c'est un des chefs du parti Otzma Yehudit. Il a 46 ans. Alors lui, s'est déjà fait repérer plein de fois, hein. Il a brandi une arme dans le quartier palestinien de Sheikh Jarrah, donc qui est en Jérusalem-Est. Il a menacé de tirer sur les Palestiniens. Il dit qu'il est le disciple de Meir Kahan. C'est un rabbin ultra-raciste qui était d'origine américaine, qui était chef du parti Kash, parti qui a été exclu de la Knesset, le parlement israélien, il y a quelques années, hein, pour dire d'où il vient un petit peu. Ben-Gvir, il a aussi menacé d'expulser les Israéliens dits déloyaux. En fait, il vise les Arabes israéliens, entre autres. Mais je pense qu'il serait capable d'aller plus loin et de virer les Israéliens de gauche. Hein. Mais pour l'instant, c'est plutôt les Arabes. En fait, il est ultra-raciste. Hein. Donc les Arabes israéliens, c'est comme les Palestiniens. C'est pas son truc à lui. Il les déteste plutôt. Il avait chez lui aussi une photo de Baruch Goldstein à un moment. C'est un médecin israélien, colon, qui s'est fait connaître parce qu'il a massacré, il a assassiné, il a tué 29 Palestiniens à Hébron en 94 dans la mosquée, qui est aussi le tombeau des patriarches pour les juifs intégristes. On voit un peu les références à ce Ben-Gvir et ça part dans le mauvais sens. Même en Israël, il est qualifié d'ouvertement de raciste, de voire de fasciste, voire plus encore. Et pourtant, malgré tout ça, ça n'a pas bloqué son ascension, puisque aujourd'hui, il risque d'obtenir un poste dans le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Alors, selon Haaretz, un quotidien israélien de centre-gauche, ce groupe religieux-là s'est déjà avancé à mettre en œuvre un plan directeur pour la construction et l'extension des colonies en Cisjordanie, notamment dans la zone C. Ils envisagent voire carrément une annexion de cette zone C. C'est une grande zone qui a à peu près 60% de la Cisjordanie. Et ils veulent faire un recensement avant pour empêcher, s'il y a une annexion, des Palestiniens de venir dans cette zone-là pour pouvoir être annexés. Eux, ils veulent pas, et eux, ils veulent plutôt virer tous les Arabes israéliens, puisque leur but, hein, c'est de faire un Israël que juif. On parle d'un parti nationaliste religieux, bien évidemment, ils sont dans cette optique-là. Ils auraient même prévu donc ce fameux plan directeur avec différentes étapes pour arriver à faire tout ça. Grosso modo, ça prépare un avenir qui est assez peu radieux pour les Palestiniens. Mais c'est pas les seules futures victimes de ces nationalistes religieux. Alors pas sur le côté nationaliste, mais sur le côté religieux, puisque la communauté LGBTQ d'Israël est fortement inquiète. Faut dire qu'il y a déjà eu des tentatives de ces groupes religieux de faire interdire la gay pride. Ils sont allés jusqu'à comparer les homosexuels à des animaux. Enfin, il y a eu des petits trucs comme ça, hein, de la part de ces ultra-orthodoxes qui sont ouvertement hostiles, hein, aux droits, à l'égalité des droits, notamment en ce qui concerne les LGBTQ. Ils sont pas mieux, hein, sur le droit des femmes, hein, mais là, ils s'acharnent beaucoup plus officiellement sur les LGBTQ. Les femmes, c'est dans la famille qu'elles ont un rôle rabaissé. On rappelle, les femmes font tout dans ces communautés religieuses, puisque l'homme ne fait que étudier les textes religieux. C'est la femme qui travaille, qui s'occupe des enfants, qui va manger, qui fait tout. C'est l'esclave, en fait, hein, pour ces groupes religieux. Les femmes n'ayant pas le droit, bien évidemment, de faire ce que fait l'homme, c'est-à-dire d'étudier les textes. Donc voilà. Dans ces groupes ultra-orthodoxes, on retrouve notamment une formation qui s'appelle Adionut Adatit, pourrait aussi avoir un poste. Donc eux, ils ont déjà plusieurs fois menacé la communauté LGBTQ. On se rappelle, hein, par exemple, de Bezalel Smotrich, qui lui postule pour le ministère de la Défense. C'est lui qui avait, alors lui, il avait qualifié les homosexuels de personnes anormales, et il s'était vanté d'être fier d'être homophobe. Ça donne un petit peu le niveau. Il avait dit aussi l'année dernière, où il y avait au mois d'août eu une hausse des infections au Covid-19 en Israël, il avait dit que c'était à cause de la marche des fiertés. Ben, c'est toujours la faute aux homos, on l'a bien compris, de la part de ces religieux. Et pourtant, quand même, si on regarde, si on connaît un peu la région, si vous êtes déjà allé là-bas, Israël fait quand même figure de meilleur élève au Moyen-Orient en l'égard des droits LGBTQ. Bah, faut dire qu'autour, c'est pas mieux, c'est largement pire. Même si en Jordanie il y a des poches de liberté, mais qui sont cachées, c'est quand même très compliqué quand on est LGBTQ dans cette région-là, hein, au Moyen-Orient. Et jusqu'à maintenant, Israël c'était un peu le pays qui était moins homophobe, voire on se rappelle de pubs, hein, disant que à Tel Aviv les gays sont les bienvenus, etc. Effectivement, à Tel Aviv il y a une communauté gay, mais bon, si vous avez déjà été à Tel Aviv et que vous avez eu des tracts où ça vous explique que l'homosexualité c'est une maladie ou c'est une horreur, vous avez compris que même à Tel Aviv c'était pas gagné. Donc là, on a basculé bien évidemment encore plus loin. Alors que donc c'est ce qui attend un petit peu la communauté LGBTQ. Faut savoir quand même que le gouvernement précédent de Yair Lapid, donc gouvernement centre droit, avait quand même qui avait fait quelques avancées pour les gays notamment, puisque ils avaient reconnu les mariages gays conclus à l'étranger. Il n'y a pas de mariage gay en Israël, il n'y a pas de mariage civil en Israël, hein, donc comme les religions sont homophobes, les Israéliens peuvent pas se marier, de même sexe peuvent pas se marier en Israël. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se marier à l'étranger, et quand ils reviennent, ils essayent de se faire reconnaître. Et le gouvernement d'avant avait fait une avancée en permettant la reconnaissance des mariages gays conclus à l'étranger, donc c'était plutôt une bonne chose. Ils avaient interdit les thérapies de conversion contre les homosexuels, et ils avaient même ouvert la GPA pour tous aux homosexuels. Donc il y avait eu des progressions. Alors là, face à ça, dans le positionnement politique, Netanyahou, il a dit que c'était pas... Bon, on sait qu'il est homophobe, mais qu'il voulait pas porter atteinte à la marche des fiertés. De même, Itamar Ben-Gvir, il a fait un truc, il est tellement anti-arabe et il se focalise tellement en ce moment sur le truc anti-arabe que il a essayé de rassurer un petit peu la communauté LGBTQ en disant je vais peut-être récupérer des voix chez les LGBTQ qui détestent les Arabes. Donc il avait dit que il voulait autoriser la marche des fiertés, que il faudrait que le gouvernement assure la sécurité. Même s'il n'était pas emballé par le défilé, il avait quand même précisé. Donc on sent que cette extrême droite religieuse est prête à faire de faux compromis pour se faire élire. Et ben là, du coup, elle a gagné. J'espère qu'il n'y a pas trop de LGBTQ qui ont voté pour eux. Ce serait quand même relativement triste, mais on sait que ça arrive puisque c'est pas l'orientation sexuelle qui fait les choix politiques et les choix des idées. Et ça n'a rien à voir. Alors toujours en Cisjordanie et en Palestine, je vais parler un petit peu d'une sorte de marronnier qui revient tous les automnes, puisque c'est la saison où on cueille, on ramasse les olives, et que c'est compliqué pour les agriculteurs palestiniens. Donc depuis les années 2000, il y a pas mal d'assauts, de structures, de collectifs qui font venir des militants, des volontaires internationaux pour aider les paysans et les paysannes à cueillir leurs olives dans la zone C, celle qui est donc c'est 60% de la Cisjordanie occupée. Et c'est celle où qui est sous l'emprise, sous l'autorité, on va dire, d'Israël. Et c'est là où il y a les colonies implantées, légales ou légalisées par Israël, ou encore totalement illégales. Ce qui ne change rien pour les Palestiniens, de toute façon. Alors, on a pas mal de témoignages. On a par exemple Noarin O'Connor, qui faisait partie d'un groupe de 10 volontaires anglais, qui aidait à la cueillette dans un village qui s'appelle Burin. C'est au sud de Naplouse. Et ils ont fait ça, et d'un seul coup, ils ont été attaqués par les colons, ça tabasse, ça pousse, ça balance, ça essaye d'empêcher l'accès finalement aux paysans à leurs champs, enfin leurs champs d'oliviers. L'armée était présente et elle regarde, elle laisse faire, bien évidemment, parce que l'armée est souvent en soutien passif, voire quelquefois actif de ces colons. Alors elle témoigne, elle raconte, elle n'est pas seule, ils sont plusieurs dans cette structure. C'est une structure qui s'appelle Friends of Madama and Burin. Donc Madama, c'est un autre village. Alors il y a des structures équivalentes en France, un peu partout dans le monde, où depuis une vingtaine d'années, il y a ces collectifs qui organisent des voyages septembre, octobre, novembre pour des volontaires internationaux qui viennent essayer d'aider ces paysans. Puisque chaque fois qu'il y a une agression des colons, il y a des agressions des colons quasiment tout le temps, ils essayent de faire tampon ou d'essayer de négocier. Alors c'est de plus en plus difficile, hein, parce que les colons se sentent tout permis, et avec les élections où l'extrême droite religieuse gagne, il y a les mêmes enjeux, c'est encore pire, ils se sentent encore plus protégés. Et puis, ils sont sous une impunité totale. En 2021, par exemple, 9300 oliviers ont été détruits par les colons, parce que non seulement ils empêchent les paysans et les paysannes d'aller cueillir leurs olives, mais en fait, ils détruisent au maximum ces oliviers. On rappelle, un olivier, il faut que ça mette très longtemps à pousser, à donner des fruits. C'est un truc un peu long. Donc c'est des champs qui sont souvent historiques, qui ont plusieurs 10, 20, 30, 50, 100 ans. Ils brûlent, ils détruisent tout ça. Il y avait eu 273 plaintes en 2021. La justice israélienne a fait 25 enquêtes et il y a eu une poignée de condamnation. Alors ils trouvent des excuses, ouais, il y a pas de preuves, tout ça. C'est vrai que des arbres qu'on brûlait, il y a pas de preuves. Alors on va parler d'autres choses, toujours en Cisjordanie, et des choses qui sont arrivées récemment, et notamment l'arrivée de nouveaux groupes armés palestiniens ultra populaires auprès de la jeunesse, et qui mettent un peu le why, pour parler comme ça, un peu vulgairement, dans la région. Alors en général, ces groupes, de ce qu'on en sait, ils obéissent à aucune hiérarchie extérieure, ils sont pas affiliés ni à des groupes religieux, ni au Fatah, donc le parti qui est au pouvoir dans une partie de la Cisjordanie, une petite partie de la Cisjordanie. Alors ils ont fait plein de trucs, hein. Ils ont fait des attaques ciblées, alors ils ont fait des assassinats de soldats au point de contrôle, ils ont fait des choses ultra violentes, ultra symboliques aussi. Ils se filment, ils diffusent ça sur les réseaux sociaux et ça cartonne. On a l'exemple, par exemple, à Naplouse, du groupe Arin Al-Hasoud, ça veut dire la tanière ou le repère des lions. Alors Naplouse, c'est associé aux lions, il y a une place avec des lions, donc voilà. Et donc ces soldats du repère des lions, C'est un peu les nouveaux combattants de l'ère actuelle, de l'ère post-accord d'Oslo, les accords foireux qui ont servi à rien et qui ont permis à Israël de continuer de coloniser la Cisjordanie, donc la Palestine. Israël, d'après les chiffres un peu officiels, entre 200 et 300 membres dans ce groupe du repère des lions. Et ils font pas mal d'actions. Ils ont un soutien un peu officieux des autorités, puisque voilà, c'est les enfants ou les petits enfants de gens qui sont haut placés. Alors ils énervent aussi tout le monde. Alors bon, en dehors des Israéliens, là forcément ils énervent les Israéliens, mais ça c'est pas notre problème. Ils énervent aussi, les autorités officielles, l'autorité palestinienne, parce que bon, ils veulent être libres, et ça, bon, l'autorité palestinienne, ils sont plus dans ce trip-là depuis des années, hein, même si officiellement ils le sont. Dans les faits, ils laissent tout faire. Et ils énervent les religieux aussi, qui essayent de récupérer le mouvement. Hein, on connaît tous ces groupes religieux. Ils énervent aussi les capitalistes, parce qu'on se rend pas compte, mais en Cisjordanie, notamment à Naplouse, c'est des villes une ville relativement importante, il y a plein de commerces, et le patronat palestinien, lui, il s'en fout de la liberté, il veut juste faire du blé. Et donc, ça énerve les patrons aussi palestiniens, qui voient d'un mauvais œil ces petits jeunes qui veulent être libres. Alors, il y a un vrai truc, une vraie ferveur populaire, sur Telegram, par exemple, le groupe de Naplouse, ils ont 225 000 abonnés. Sur Telegram, le Hamas, ils ont 36 000 abonnés. Hein. Donc, ils arrivent à récupérer pas mal d'envie de cette jeunesse. Cette jeunesse post-2000, donc qui a grandi avec un peu d'espoir au début, puis qui finalement a été sous l'autorité palestinienne. Quand même occupé par Israël et qui voudrait vivre différemment. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que il y a plus. On se rappelle des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, par exemple, qui étaient associés au Fatah, parti au pouvoir, mais tous les groupes religieux qui font des attentats, qui font des attaques. Là, on est dans un truc beaucoup plus ambigu. Il y a des croyants, des croyantes, mais il y a aussi pas mal de gens qui disent pas croyants et qui veulent libérer la Palestine. Donc ça déstabilise énormément l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas notamment, qui est le chef autoritaire de l'autorité palestinienne, corrompu, enfin tout ce qu'on a pu voir. Hein. Il est là depuis 2005 et il n'y a plus d'élections depuis cette époque-là. Et bon, ils énervent énormément Israël. Mais ça, c'est normal. On est dans une résistance par rapport à une occupation. Alors ils sont pas tout seuls, les lions de Naplouse. Hein. Il y en a à Jénine. Il y a un groupe à Jénine, c'est pareil, bastion historique hein, des résistances on pense à la deuxième intifada notamment, et puis Shoafat, et puis à d'autres endroits. Donc voilà, c'est des jeunes modernes ultra connectés qui résistent. Donc c'est plutôt, même si c'est violent, forcément une résistance à une occupation c'est violent, il y a des morts, voilà, il y a une sorte de renouveau de la lutte armée en Palestine. Pendant ce temps, les vieux dirigeants, et c'était mon truc, les vieux croutons, je pensais au Fatah, au Hamas, à tous ces vieux plutôt croyants, alors pas toujours le Fatah, qui perdent la main là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font une nouvelle réunion en Algérie sous le président algérien qui a essayé de mener le truc pour sortir un nouveau texte qui s'appelle la déclaration d'Alger pour la réconciliation nationale. Et ils essayent de reprendre la main en disant la seule organisation officielle, ça doit être l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine. Ça doit être le seul représentant du peuple palestinien. Donc ils arrivent, ils sont autoritaires. Hein, on est dans une quasi-dictature, il doit y avoir que l'OLP. Il n'y a plus autre chose. Et puis, ils y vont plus loin, ils disent, voilà, on est tous ensemble, il faut, bon. Bref, on sent qu'ils ont perdu la main, qu'ils essayent une énième fois de se remettre main dans la main entre le Fatah et le Hamas, et que là, c'est justement les groupes des petits jeunes qui les poussent un petit peu au cul pour les obliger à essayer de faire des concessions. La plus grosse concession qu'ils ont faite, c'est de dire qu'il y aurait peut-être des élections d'ici un an. Hein, les élections qu'on attend depuis des années, et au moins 2021, ce qui était prévu. Donc voilà. Donc voilà, ça bouge en Palestine. On leur souhaite bien du courage.
On va parler de toute autre chose maintenant.
J'ai parlé longtemps quand même.
Oh, mais ce n'est pas grave. Nous allons donc parler de toute autre chose. Et nous allons parler de ce qui se passe un petit peu à Lyon. Il se passe plein de choses. A priori, aujourd'hui, là, cette semaine, il y avait quand même une petite réunion, on l'a délu. c'était mouvementé en ce moment. Bon, faut dire que depuis que monsieur Grégory Doucet a été élu maire de Lyon, il y a des gens qui sont en apnée tous les jours, par exemple, si je sais pas. Alors, on vous rappelle, dans cette émission, on est anarchiste, donc cette démocratie parlementaire nous intéresse pas trop. Donc c'est les Verts, même s'il y a des idées politique dans le sens de la gestion de la cité qui peuvent nous intéresser, on se fiche pas mal que les gens puissent leur taper dessus. Et donc moi, j'ai beaucoup d'humour pour ce qui peut leur arriver, hein, évidemment. Donc j'adore lire Lyon Mag, qui depuis cette élection municipale ne se remet pas de cette élection des Verts et de Monsieur Doucet. Et donc je pense que à Lyon Mag, tous les matins, ils s'étranglent en se lavant les dents avec l'eau de rinçage. Ils en peuvent plus. En fait, ils sont franchement, ils sont appelés tous les matins, c'est tous les jours, à midi, le soir. Tous leurs articles sont donc du vomissement sur les Verts. Moi ça me fait rire personnellement parce que bon, je m'en fous, je suis pas de ce parti, mais c'est quand même symptomatique de ce qui peut se passer. Et donc la ville de Lyon, c'est vrai qu'avec l'arrivée de monsieur Grégory Doucet, essaye aussi de faire des choses, mais il faut dire qu'on avait eu tellement longtemps monsieur Gérard Collomb qu'on a même oublié qu'il avait eu une politique de droite avant Gérard, hein, quand même, hein, qui a fait une politique de droite lui aussi. Alors en particulier, il y a des choses d'amélioration aussi de cette cité. Qui passe aussi avec la métropole, hein, mais en tout cas sur Lyon, on sent qu'il y a une amélioration. Il y a une envie de développer le vélo, il y a une envie de d'inclusivité. Il y a plein de choses qui ont
d'avoir
envie
des zones piétonnes, plus d'arbres, moins de pollution.
On rappellera que quand même le fait de vouloir embellir la ville, ça date d'avant déjà. Gérard Collomb avait voulu l'embellir, mais c'est surtout illuminer les bâtiments. Et puis après, il y a eu quand même, on va au moins mettre ça. En avant, quand même cette volonté aussi d'améliorer les quais. Mais on se rappellera que Gérard Collomb, il y a un moment, il y a eu la gauche plurielle, donc il a pas fait, il était pas, il y avait pas que Gérard de droite. Mmh. Il y a eu aussi des élus de gauche et déjà cette gauche plurielle à l'époque. Donc il y avait déjà un peu de la trace. Mais c'est vrai qu'avec Grégory Doucet, donc il y a des envies de faire un peu des choses et en particulier de rénover des lieux. Alors c'est vrai que là vous avez peut-être entendu parler que par exemple sur le 4e, il y a des mineurs isolés, migrants, qui ont enfin trouvé un nouveau lieu parce que enfin le problème c'est qu'ils n'arrêtent pas de changer de lieu. Mais en tout cas il y a eu un moment une petite inquiétude de savoir ce qui allait se passer en particulier avec l'hiver. Donc là ces deux maisons qui appartiennent à la ville qui sont occupées, qui ont été ouvertes par des militants et des militantes. D'abord, avant de faire installer ces jeunes, pour éviter que ce soit eux qui aient des soucis tout de suite. Hein. Au moins, s'il y avait des soucis, c'était des gens qui ont des papiers et des toits sur la tête. Et puis un réseau de militants qui fait que ben, déjà, tu peux être soutenu ça, quand tu as des ennuis, quand tu vas ouvrir un lieu pour d'autres. Donc voilà, il y a des lieux comme ça. Et là, on attend un peu à savoir si la ville de Lyon va laisser. En tout cas, on espère sur l'hiver, mais en tout cas peut-être aussi pour faire une convention d'occupation pour laisser ces jeunes qui ne devraient pas être dans des maisons occupées illégalement, puisque c'est ça hein, quand même l'affaire, devraient être accueillis tout simplement par les autorités, qu'elles soient collectives ou d'État. En tout cas, donc il y a des lieux comme ça qu'il faut réhabiliter et un des projets en cours était la réhabilitation du chalet du parc de la Tête d'Or, un lieu qui est à l'abandon depuis 2013, c'est un ancien restaurant situé hein, au sein du parc de la Tête d'Or. Alors ça va coûter assez cher hein, cette réhabilitation. Normalement, le site devrait pouvoir réouvrir en 2025, on parle de 4 400 000 euros pour quand même des travaux, mais il y a beaucoup à faire. Alors l'idée c'était donc d'avoir des organisations, des associations qui viennent s'installer dans le lieu avec un cahier des charges qui soit plutôt évidemment tourné autour de l'accueil du public, d'enjeux écologiques et tout ça. Et donc il y avait plusieurs dossiers qui avaient été proposés. On avait donc la Grainerie et Urban Project et évidemment Good Planet qui a gagné. On s'y attendait.
C'est quoi Good Planet?
Bah Yann, ça te dit pas?
Non.
Bah alors, on en a parlé avec le The Event.
Ah oui.
Ça te parle quand même, Yann Arthus Bertrand?
C'est Yann qui a gagné.
Yeah, Yab, comme on dit
oui.
Chez les écolos d'opérette. Alors, donc c'est Good Planet, donc Yann Arthus Bertrand qui a donc gagné cet appel d'offres. Alors, il va s'agir d'un bail sur une cinquantaine d'années, donc c'est un truc à long terme.
Ah oui,
quand même.
C'est très long.
Oui, c'est long. Tout à fait, hein, c'est ce qu'on appelle un bail emphytéotique. Je vous laisse aller chercher comment ça s'écrit sur Internet ou dans votre dictionnaire papier. Alors, ça fait un peu réagir, évidemment, pour plein de raisons. On a, par exemple, Pascal Blache, le maire du 6e, de droite, qui, évidemment, avait envie que ce lieu soit utilisé et rénové. On sent que ça l'emmerde un petit peu, que ça soit un truc d'écolo qui est remporté. Mais de toute façon, c'était un truc d'écolo. Hein.
En fait, en même temps, Yann Arthus Bertrand, il n'est pas vraiment écolo. Hein.
Non.
Il est dans le greenwashing, plus.
Si vous avez oublié qui c'était, Yann Arthus Bertrand...
C'est le mec qui fait des photos en hélicoptère.
Ah voilà.
Des, bon. Très belles, mais en hélicoptère, quoi.
Et puis, il a accusé d'être un peu un écolo d'opérette. Et puis surtout, Goop Planète, vous savez, avec les Evans, je vous avais raconté, était accusé de faire du greenwashing, d'avoir eu des partenaires qui étaient dans le pétrole. Enfin bon, tout ça, tout ça. On va pas revenir sur ce que je vous ai déjà raconté. Mais du côté de Pascal Blage, donc le maire du 6e, on critique le fait d'avoir choisi Goop Planète parce que par rapport aux autres... Pour Pascal Blache, la question financière, elle est pas claire. C'est-à-dire que on avait aucun doute que ça soit Goop Planète qui gagne parce que on sentait la proximité avec la mairie de Lyon et Monsieur Grégory Doucet. Donc on voyait bien que ça allait se passer comme ça. Mais du coup, il y en a qui disent :« Mais attendez, Yann Yatrous Bertrand, il veut faire appel au mécénat. Est-ce que ça va tenir sur le long terme que sur un appel au mécénat ? Parce que le truc de Monsieur Yann Yatrous Bertrand, c'est de dire :« Moi, j'ai des amis dans le monde entier. » Et ils vont m'aider à financer ce qu'on va faire ici sur Lyon, que de la même manière que j'aide à financer Goop Planète. Le problème de cette ville de Lyon, c'est qu'elle est prête à s'acoquiner avec des tas de gens, et que donc Goop Planète puisse peut-être un jour se réacoquiner, parce qu'il paraît que tout ça est fini, avec des groupes comme Total, ou d'autres groupes multinationales qui seraient un petit peu tendancieux, vous voyez, dans leur activité, ça gêne pas la ville de Lyon, en fait. Hein. Donc, on n'est pas surpris par cette décision et donc cette proximité. Donc, c'était pour vous raconter ça. Donc, ils gagnent. Donc, on va attendre 2025, ce qui va se passer. Alors, c'est Goop Planète va pas être seul à utiliser ce lieu, puisque il y a la maison Gutenberg et j'ai raté les derniers qui vont s'installer avec. Enfin, c'est un projet collectif. Donc, pour faire renaître ce lieu au sein du parc de la Tête d'Or, c'est plutôt assez intéressant. Maintenant, revenons sur Goop Planète. Goop Planète, je vous en ai donc parlé aux E-Event, et quand je vous dis que je vais pas y revenir un peu dessus, bah, je vais quand même y revenir un peu dessus. Ce qui fait aussi un peu grincer des dents, c'est cette proximité des Verts, que ça soit à Lyon ou ailleurs, hein, on peut remettre Monsieur Jadot dans la boucle, avec des organisations qui aiment bien certaines pratiques, et en particulier des pratiques comme la biodynamie. La biodynamie, c'est, on vous l'a dit, et raconté des dizaines de fois ici, c'est l'anthroposophie. Et Goop Planète, au moment du The Event, avait fait un communiqué sur toute la partie, d'abord une première réponse donc aux critiques amenées hein, sur ce The Event, et donc le rejet de Goop Planète à ce moment-là, en disant non, nous on fait pas du greenwashing, et ensuite une partie sur la biodynamie. Goop Planète continue à dire que la biodynamie, c'est vachement bien, en particulier dans le vin, parce que c'est des pratiques qui vont au-delà du bio.
Ah oui, il y a les ondes cosmiques qui viennent aider les plantes. Attends, voilà. Toi tu te rends pas compte des ondes cosmiques, Vénus, tout ça, là, machin, non. La corne de vache, tout
avec
ça.
Avec la bouse dedans.
Avec la bouse dedans, mais ouais.
Ça c'est le numéro, la préparation 500, je crois, la bouse de vache, si je me souviens bien. Bon, c'est celle qu'on connaît un peu tous et toutes. Hein. Donc, on a quand même toujours ce soutien à ce label Déméter, hein, que vous pourrez retrouver sur les bouteilles de vin, qui évidemment. C'est à fuir. En tout cas, ça c'est ma position. Vous faites bien ce que vous voulez, buvez ce que vous voulez. Mais donc, on a cette organisation qui arrive, qui n'est pas locale. Donc, on peut penser qu'on amène une espèce de force limite internationale, puisque Monsieur Yann Yatrous Bertrand se défend de pouvoir amener de l'argent de partout du monde, grâce à ses mécènes. Et puis, on va avoir. Le but, c'est quand même d'ouvrir tout ça au public. Donc, est-ce que demain, on va avoir donc des cours de biodynamie au sein de cet établissement? Je ne sais pas, mais ça, c'est vrai qu'on peut se poser des questions parce que on a des Verts qui n'arrivent pas du tout à critiquer cette anthroposophie parce que on en a déjà parlé il y a pas très longtemps. On a des élus à Lyon qui veulent mettre en avant certaines pratiques.
D'ailleurs, ils ont à nouveau été taclés sur le choix de la nef.
Eh ben, je vais y venir, voilà. Justement, puisque c'est ça. Hein, on a toute cette difficulté de ne pas critiquer l'anthroposophie. Alors,
on rappelle, hein, la Miviludes classe l'anthroposophie dans les dérives sectaires.
Alors, c'est pas tout à fait ça.
Ouais, en fait,
c'est plus compliqué que ça. À un moment, il faut quand même remettre la réalité. Effectivement, l'opposition à Lyon, le groupe pour Lyon, a interpellé le gouvernement concernant les liens entre les Verts ici à Lyon, Monsieur Grégory Doucet et son équipe. Et la nef, effectivement, je fais ça de tête, je l'ai pas sous les yeux, ça, voilà. Mais dans le rapport de la Miviludes, page 72, il y a une phrase sur la nef et l'anthroposophie. C'est une phrase.
Ouais, c'est tout.
Donc, il n'est à aucun moment écrit que la nef est une organisation sectaire. Ce qui est rappelé, c'est qu'elle est proche de l'anthroposophie et que dans l'anthroposophie, il y a des dérives sectaires, et en particulier sur le médical, et c'est toute une partie qui est développée par le rapport de la Méville.
On rappelle, l'anthroposophie, ça, c'est un truc basé sur des croyances et du rejet de la science. Hein, le but de l'objectif premier de l'anthroposophie, c'est tout ce qui est démontrable doit être rejeté. Voilà, c'est ça, hein, il rejette un mouvement anti-science né au début du XXe.
Alors moi, ça me fait plaisir que tout le monde lise le rapport de la Méville-Lude, même si c'est pour servir d'une manière un peu détournée. Ouais. Mais je suis...
Il est intéressant ce rapport, du coup.
Ah, c'est très très intéressant, hein, toute la partie sur la méditation de pleine conscience. Alors ça, c'est un grand moment de joie que ça soit enfin dans ce rapport. Mais c'est vrai que on a des gens comme Monsieur Perra, qui est un ancien des écoles Steiner-Waldorf, qui a fait des petits tweets pour interpeller Monsieur Grégory Doucet, justement, eux, ils disent, attendez, nous, on fait des emprunts avec la nef, mais Gérard Collomb, il l'a fait aussi. Alors, Grégory Perra dit, bah, attendez, c'est pas parce que ça a été fait que c'est plus la même époque, on peut peut-être avoir du recul et arrêter d'emprunter n'importe où. Et donc, il les interpelle sur cette question. Parce que on peut avoir du débat, on peut en discuter. Alors, vous allez me dire, partout, les banques, elles sont pourries. Bah oui, mais ça n'empêche pas de peut-être aussi de se poser la question. Mais ça soulève surtout le lien toujours important entre ces vers et des pratiques parfois curieuses en matière agricole, hein, très clairement, en matière de santé, et donc assez peu de critiques. Alors évidemment, Collomb l'avait fait, mais Collomb, il faisait la nef aussi parce que ça faisait bien, ça faisait de gauche. Hein. Les Verts, ils le font parce que ça fait de gauche, j'y suis et puis j'y reste. Hein. C'est un tout petit peu différent dans la méthode. Mais effectivement, donc du coup, le groupe Pour Lyon a interpellé Sonia Baquès, qui est secrétaire d'État en charge de la citoyenneté, qui voudrait préparer quelques textes sur l'emprise mentale. Donc, ils interpellent. Alors c'est là où je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une ligne phrase dans le rapport page 72, et que donc c'est un peu facile d'aller taper sur la gauche et sur les Verts avec cette pratique. Mais reste que à chaque fois, Good Planet, la nef, on retrouve à chaque fois les Verts quand même dans des idées, comme je le disais, un petit peu curieux.
Ouais, surtout que l'idée de départ des Verts, c'est de rejeter les banques. On pense au Crédit Agricole, on pense à toutes ces banques.
Société Générale.
Qui collaborent avec la destruction de la planète, qui financent des projets pétroliers, qui sont en grande partie de responsables de la destruction de la planète, de celle qui est faite à partir de chez nous, des capitaux de chez nous. Donc, la bonne idée de rejeter ces banques, c'est bien. Il faut trouver une banque moins pourri, et c'est là où c'est difficile, parce que ils se raccrochent à la nef parce que ils ont rien trouvé d'autre. C'est ça le problème.
Et puis, ce qui, moi, m'a étonné un petit peu quand même, et c'est là aussi, je trouve, qu'il y a quand même des pratiques bizarres chez ces Verts, c'est que du coup, ils ont interpellé la Méville-Lude, qui a du mal à exister, il faut le savoir. Il n'y a plus d'argent, il y a des gens qui ont tenté de faire fermer cette structure, de faire taire les gens. Vraiment, donc, on a du mal hein, avec les mouvements sectaires, les dérives sectaires, et les mouvements complotistes, en particulier dans la santé en France et dans les religions. On a du mal. Mais en tout cas, les Verts, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils sont allés voir la Méville-Lude. En tout cas, ils ont interpellé le président de la Méville-Lude pour dire, attendez, c'est pas bien, là, il y a des gens qui s'attaquent à la nef. C'est-à-dire qu'il y a un moment, pourquoi s'attaquer à la Méville-Lude de cette manière en disant, c'est pas bien, c'est dans votre rapport. Ça n'a aucun intérêt puisque, encore une fois, ce n'est qu'une phrase. Donc, pourquoi, aller voir la Méville-Lude pour une phrase? Par contre, on attend toujours les critiques sur l'anthroposophie.
Ouais.
Voilà.
C'est à moi? Un petit ni deux ni maître avec trois petites infos. La première, c'est on va aller en Afghanistan, dans cette théocratie menée par les talibans, qui ont décidé de rendre la vie des femmes impossible. Hein. Et là, on a franchi un seuil. Alors bon, on rappelle, hein, les écoles secondaires, c'est fini pour les femmes. Les facs, tout ça, c'est quasi fini pour les femmes. Les emplois publics, c'est fini pour les femmes. Et là, eh ben, ils viennent de leur interdire de rentrer dans les parcs et jardins de la capitale, donc Kaboul. Donc voilà, maintenant, elles sont refoulées à l'entrée, alors au pire, elles ont le droit de laisser leurs enfants tout seuls dedans et de rester à l'extérieur. Alors pourtant, ils avaient déjà instauré des horaires séparés entre les hommes et les femmes sur les parcs, parce qu'il faut surtout pas qu'un homme croise une femme, ou qu'une femme croise un homme. Mais comme, d'après le porte-parole du ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice, c'était pas toujours respecté, voilà, c'est fini, les femmes, vous avez plus le droit d'aller dans les parcs. Tout va bien, ça marche de mieux en mieux en Afghanistan pour le droit des femmes. On reste dans les théocraties, on va juste relativement à côté, on va en Iran. Alors, on a bien vu hein, que l'Iran continue de réprimer les manifestations provoquées par la mort de Mahsa Amini. Alors ça, c'est la goutte qui a fait déborder le vase des manifestations. La mobilisation continue, c'est assez incroyable, hein, ça dure depuis un petit moment. Il y a une répression énorme, mais tout le monde s'accroche, notamment la jeunesse qui résiste. Alors, je ne sais pas s'ils vont arriver à faire tomber cette dictature religieuse, cette théocratie, mais en tout cas, pour l'instant, ils abandonnent pas. Et pourtant, ils en prennent plein la gueule. Il y a des morts, il y a des gens en prison. Et dans celles et ceux qui prennent le plus, ce sont les journalistes et les journalistes femmes. Bah oui, c'est une religion, c'est un truc où la femme compte moins que l'homme. Donc, il y a actuellement plus de la moitié des journalistes emprisonnés qui sont des femmes. Enfin, emprisonnées depuis la mi-septembre, depuis ce mouvement. Elles représentent bien moins que la moitié des journalistes dans le pays. Sauf que depuis mi-septembre, ce sont les femmes qui sont beaucoup plus arrêtées. Les femmes journalistes, on parle des journalistes, puisque c'est issu d'un bilan de Reporters sans frontières qui nous explique qu'au moins 42 journalistes ont été arrêtés depuis mi-septembre à travers le pays. Et donc il y en a 8 qui ont été relâchés, donc il y en a 34 à peu près actuellement en prison, dont au moins 15 femmes, donc voilà, on est à 50%. Donc grosso modo, elles sont 5 fois plus nombreuses en prison qu'avant le début des troubles de septembre. Ce début de révolution, ça c'est dans nos rêves, mais en tout cas de mouvement, de contestation. Donc ça démontre une fois de plus que les journalistes en Iran et dans les dictatures hein, sont mal aimés, moi ça on le savait déjà. Pourtant il n'y a pas énormément de liberté, donc déjà ils étaient obligés de se restreindre beaucoup. Alors il y a des cas un peu plus particuliers, il y a deux cas, il y a Niloufar Ahmedi et Elae Mohammadi qui ont attiré un peu plus l'attention de Reporters sans frontières parce que elles ont dénoncé dès le début la mort de Mahsa Amini et dès le début elles se sont fait arrêter et elles sont poursuivies pour des accusations comme propagande contre le système ou conspiration pour agir contre la sécurité nationale, des accusations qui sont passibles de la peine de mort. Donc voilà, c'est pas gagné, les journalistes femmes risquent la peine de mort en Iran. Alors, il y a eu une réaction de 500 journalistes et activistes iraniens et de médias qui ont signé quand même un appel. Ça, c'est à noter dans le pays. Hein. Dans une dictature comme ça, c'est pas évident. Ils ont quand même pris leur courage à deux mains et c'est à signaler. Il y a une autre journaliste aussi qui s'appelle Nazila Maroufian qui avait fait une interview du père de la jeune femme assassinée par l'État iranien, par la police des mœurs là, qui est elle aussi en prison et qui a été transférée dans cette tristement célèbre prison d'Evin. Si vous avez déjà vu des films sur l'Iran, c'est assez apocalyptique ce qu'ils montrent dans les films et la réalité a l'air de correspondre aux images qu'on a pu voir dans les différentes fictions qui touchent l'Iran. Voilà. Alors l'Iran, 170e pays sur 180 en classement mondial de la presse. Ah oui, les dictatures religieuses et la liberté de la presse, c'est pas compatible. Voilà. Et ce qu'on notera quand même pour terminer sur un truc positif, c'est que il y a des nouvelles formes de contestation. Donc au départ, c'était des manifestantes qui brûlaient des images du mollah, le chef Khomeini, qui jetaient leur foulard au sol. Et là maintenant, il y a le petit jeu d'aller faire tomber les turbans quand ils croisent des mollahs. Donc ils ont ce turban là sur la tête et ça filme et ça fait tourner les vidéos. On peut arriver à faire de la contestation quasi humoristique. Par contre, ils prennent quand même des risques énormes. Hein. Mais voilà, il y a des nouvelles formes et ça donne quand même un petit espoir. Et puis pour terminer, c'est un coup de gueule sur un mec qui m'a beaucoup énervé. J'ai même failli vomir en lisant cet article sur Bono. Bon, au début j'ai vomi, après j'ai ri, après j'ai bouffé en représailles un disque de U2, puisque Bono, il est surtout connu pour être le chanteur de U2. On pense aussi à ce qu'il a fait en pseudo-militant anti-mondialisation, là, qui était un peu l'idiot utile, et qui finalement a validé le capitalisme pour détruire la planète pendant des années. Là, il allait dans tous les trucs où il y avait le MEDEF pour dire qu'il fallait sauver la planète, mais en fait, voilà, c'était l'idiot utile, collabo du capitalisme. Et là, il vient de publier une biographie qui est traduite en français, qui s'appelle Surrender, 40 chansons, une histoire. Et là, il parle de son opération cardiaque, donc il a été malade en 2016, hein, 8 heures d'opération. Et puis il dit, bah, avec cette opération, puis après je suis allé à Jérusalem, et plein d'autres éléments dans ma vie m'ont montré, j'ai vu des indices, je cite là, des indices divins tout au long de ma vie. Voilà, donc il explique que c'est Dieu qui l'a sauvé. Enfin voilà, donc c'est intéressant d'avoir ce discours-là aujourd'hui de Bono. Hein, si vous regardez l'actualité, quand on parle de l'Église catholique pour parler de chez nous, hein, c'est la même que chez lui en Irlande. On parle surtout des crimes sexuels des membres de l'Église. On parle de toutes les dérives sectaires liées aux religions, hein, ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique, en Pologne, en Russie, au Qatar, sur le droit des LGBT, sur le droit à l'avortement qui disparaît sous le coup des idéologies religieuses, quelle que soit la religion. On se rappelle de tout ce qui s'est passé pendant la pandémie, où les religions ont été porteurs d'un discours complotiste et anti-vax très très fort, une partie, hein, des religieux. Là, d'un seul coup, Bono, il fait voilà, des propos prosélytes pour défendre des croyances irrationnelles. On l'aurait cru intelligent, on aurait aimé avoir un discours sérieux, logique, un peu scientifique pour parler de sa vie et des choses importantes, et finalement il nous tient un discours irrationnel pour défendre l'existence d'un être imaginaire, et finalement il démontre qu'il n'est pas qui méritait rien d'autre que d'être un chanteur d'un groupe irlandais de talent, mais rien d'autre que ça. En fait, bon, on l'avait cru intelligent, on l'avait déjà su que c'était un traître, et ben maintenant on sait qu'en fait il n'était pas intelligent.
Donc il dirait, lui, qu'il y a une différence entre Dieu, c'est-à-dire son être supérieur, et les religions. C'est bien pour ça d'ailleurs que je vous invite à lire le numéro 1844 du Monde Libertaire de ce mois de novembre 2022, avec une couverture dont le titre est « Nom de Dieu ». Ah bah, toutes les religions. Voilà, c'est intéressant à lire. Il y a une partie évidemment sur l'Iran, mais il y a aussi par exemple un article « Dieu ou religion ». Tout ça pour en arriver à la même chose. Dieu n'existe pas, l'athéisme c'est super, tout ça. Donc voilà, c'est à lire. De toute façon, le Monde Libertaire, c'est sympa. Ça coûte 4 euros, ça se trouve dans plein d'endroits. Voilà, puis sinon, je sais pas, volez-le.
Non, mais ils ont besoin d'argent, un peu, le pauvre, les mondes libertaires. Ouais.
Voilà. C'était une blague, c'était pour faire coucou aux camarades de la Fédération anarchiste. Alors, moi, je vais vous parler d'autre chose, je vais vous parler de chasse.
Ah ouais, ça j'aime bien aussi. Alors, c'est un peu comme Bono, quoi.
Les choses, elles changent. Pas tout à fait. Mais il se passe des trucs. Voilà. Par exemple, Philippe Kellner, qui est le maire de Verneuil-en-Alatte, c'est dans l'Oise, vous ne connaissez pas.
Non.
Peut-être non. Que si, a décidé de signer vendredi dernier, c'était le 4 novembre, un arrêté portant interdiction de pratiquer la chasse à courre sur le territoire, donc de Verneuil-en-Alatte. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors il faut dire que cette forêt d'Alatte, elle accueille assez régulièrement des chasses à courre, hein, c'est pas de bol. Il paraît que c'est un terrain de jeu pour les chasseurs, et ce qui l'a particulièrement agacé, c'est ce qui s'est passé dans une commune à côté, à Pont-Sainte-Maxence, donc c'est toujours dans l'Oise, vous l'auriez compris, où là on a un maire Les Républicains, comme quoi même à droite il y a des gens qui sont anti-chasse, qui s'appelle Arnaud Dumontier, qui a donc vécu sur sa commune la mise à mort d'un cerf. Il paraît que c'était pas chouette, hein, parce que tout ça a été filmé. Alors le cerf, d'abord il s'est jeté dans la rivière pour échapper à une meute de chiens. Il y a un équipage, hein, parce que la chasse à courre, je vous rappelle, c'est tout en élégance. Donc le cerf était poursuivi, vous savez, jusqu'à ce que les animaux n'en peuvent plus, ils soient... voilà, enfin, c'est assez rime. Et là, il y a ce qu'on appelle un piqueux qui l'a abattu, donc voilà.
C'est que du bonheur.
Ouais, c'est classe, la chasse à courre. Ouais. La chasse, c'est classe déjà, mais la chasse à courre, là, j'avoue que c'est... voilà. Donc, il y a une pétition qui a été, suite à cette affaire, mise en place. Donc, ce qui a fait, il y a eu déjà 40 000, 50 000 signatures, hein. Ça a été très, très rapide. Et donc, Philippe Kellner a pris cette décision. Voilà, tout le monde dit, de toute façon, nous, on s'en fout, parce qu'on sait que son arrêté, il va tomber. Ça, c'est du côté des chasseurs et des chasseuses, c'est super. Et du côté de Arnaud Dumontier, donc je vous disais, le maire de Pont-Saint-Maxence, lui, il estime que ça a violé son arrêté qui interdit les chasses qui se poursuivent à moins de 300 mètres des habitations. puisque c'est ce qui s'est passé. Donc il a porté plainte pour la troisième fois, hein, puisque ça s'est passé, le CERF, c'était fin octobre. Donc le 4 novembre, on a la décision de Philippe Keltner, le maire de Verneuil-en-Hallatte. Mais le 2 novembre, Arnaud Dumontier, donc lui, a porté plainte pour la troisième fois contre le rallye des Trois Forêts. Le rallye des Trois Forêts, c'est un machin qui organise donc la chasse à cour. C'est un arrêt qu'il a pris, hein, un arrêté qu'il a pris, un arrêté municipal en 2018. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui l'énervent, hein, quand même. Donc comme il sait pas comment s'y prendre, il avait déjà fait comme un certain nombre de gens, voulu déjà se dire, bah déjà on va essayer de protéger les habitations. Comme il est de droite, il s'est dit je vais avoir des soucis. Mais il s'est avéré qu'en fait il a eu plein de soutien. Donc du coup, monsieur Dumontier de droite se dit finalement j'ai bien fait, puisque il y a en ce moment dans les zones rurales des réactions pour faire arrêter la chasse, interdire carrément la chasse. Imaginez, en zone rurale quand même, hein, il y a donc des ruraux en colère qui aujourd'hui se battent pour déjà changer les règles et faire en sorte que déjà ce soit pas, je sais pas, pour moi les périodes de vacances, les dimanches, voire certains aimeraient que ça soit carrément interdit et qu'on passe à autre chose. En tout cas, la chasse à cour est quand même voilà. Donc il faut savoir que d'autres réagissent. Là, on est dans le Puy-de-Dôme. C'est la maire Anne-Catherine Lafarge, maire de Marsaz, dans le Puy-de-Dôme, si je me trompe pas. Marsaz, c'est ça. Elle a pris elle aussi un arrêté municipal qui interdit la chasse sur le territoire de la commune jusqu'au 4 décembre prochain. Donc c'est temporaire, mais c'est quand même un signe, parce que en fait, il y a eu des chasseurs à proximité d'un centre équestre du village, centre équestre dans lequel il y a des petits enfants qui ont la joie d'entendre les tirs dans leur petite oreille alors qu'ils étaient dans les bâtiments et sur le manège avec donc les poneys et les chevaux. Donc il y a une plainte qui a été déposée aussi, puisque là elle estime que les chasseurs n'ont pas du tout respecté les règles et se sont approchés du bâtiment à moins de 200 mètres donc de cette construction, que donc il y a un gros problème. Alors c'est bien, ça veut dire qu'il y a quand même en zone rurale des gens qui osent réagir, hein, des maires qui prennent des responsabilités. Tant ils ont tout intérêt, parce que le jour où il y aura encore un mort, et ben ils pourraient être eux-mêmes visés ou elles-mêmes visées par des plaintes pour ne pas avoir protégé la population. Mais il y a aussi un énervement sur la position du chasseur qui se croit tout permis. Alors moi je me suis baladée un peu sur des sites magnifiques. Par exemple, je suis allée sur lechasseurfrançais.com.
Oui.
Je suis allée sous aussi chasson.com. C'est pas mal. Alors, il faut savoir que la Fédération départementale des chasseurs du 64 a émis un communiqué qui commence par chasseurs, méfiez-vous, point d'exclamation. De quoi il faut se méfier? Eh ben, de l'apparition de Pierre Rigaud. Je sais pas si vous savez qui c'est, Pierre Rigaud. C'est aujourd'hui quelqu'un qui travaille pour lui-même, hein. Il y a un moment, il avait lancé un appel à dons. En 2016, il avait commencé à faire des 2015-2016 des vidéos sur les réseaux sociaux pour montrer les problématiques de la chasse sur les animaux sauvages. Et puis ensuite, il a eu plein de soucis. Hein. Il avait porté plainte pour coups et blessures. Il s'est fait agresser par des éleveurs, ce qui voulait aussi montrer la maltraitance animale, mais surtout il s'est opposé aux manifestations anti-loups dans l'Aveyron par exemple. Donc là ça plaît pas trop, hein, à certains éleveurs. Il a publié Pas de fusil dans la nature, donc là c'est évidemment, vous l'avez compris, un ouvrage anti-chasse. Et puis il ose aller, hein, sur les médias et puis aller se battre contre les chasseurs, voilà, dans des débats où génial, vous avez deux parties, puis tout le monde s'agresse, et puis ben voilà, vous avez pris parti pour l'un ou l'autre. Il paraît qu'il a même trouvé un cadavre d'animal sur sa voiture, rempli de sang, voilà. Enfin, donc c'est quelqu'un que les chasseurs et les chasseuses n'aiment pas, vous l'aurez compris. Là, il a fait la préface, Pierre Rigaud, d'un ouvrage qui s'appelle Chasser tue aussi les humains. C'est le collectif Un jour un chasseur qui veut parler de ces hommes et ces femmes qui sont morts à cause de la chasse. Voilà, c'est un hommage en fait à ceux et celles qui ont été assassinés par des chasseurs. Donc c'est ça vient de sortir en octobre 2022 aux éditions Le Duc. Bon voilà, c'est pour vous donner un petit peu une idée du personnage, que vous l'aimiez ou pas, ça vous donne un petit peu une idée de qui il est. Et donc On a ce communiqué que je vais vous lire, mais à chaque fois il est présenté par un petit texte sur les sites, donc sur Le Chasseur français, sous la plume de Isabelle Leca. On a attention Pierre Rigaud en tournage dans les Pyrénées-Atlantiques. Quand on connaît les méthodes quasi mafieuses de cet anti-chasse notoire, il faut se méfier et rester correct. Car si vous ne voyez que lui, n'oubliez pas qu'il peut être équipé de caméras cachées. C'est ce que nous appelle donc Isabelle Leca. Et puis sur chasson.com, on a là sous la plume de Frédéric Buskowski, alerte dans les Pyrénées-Orientales, Pierre Rigaud tente d'approcher des paloumères. Nous venons d'apprendre que le sinistre Pierre Rigaud, faux naturaliste mais véritable extrémiste anti-chasse, était en train de tenter d'approcher des chasseurs opérant en palombière dans le département des Pyrénées-Atlantiques, sous couvert de réaliser un reportage sur cette chasse emblématique du Sud-Ouest, mais plus certainement dans le but de vomir une fois de plus sur la chasse. Nous vous livrons le communiqué de la Fédération départementale, nous expliquons. Alors ce qui est très marrant, c'est que le titre c'est « Alerte dans les Pyrénées-Atlantiques, Pierre Rigaud tente d'approcher les paloumères ». Mais en fait, quand vous allez dans l'URL, ils ont laissé « Alerte dans les Pyrénées-Atlantiques, Pierre Rigaud d'approcher les paloumères » pour ensuite vomir sur la chasse. Ils l'ont laissé dans l'URL. Donc moi, je trouve ça très très drôle. Donc, vous avez compris que ça irrite des gens. Donc, le communiqué de la Fédération départementale des chasseurs du 64 se veut plus calme. Je vous le lis. « Chasseurs, méfiez-vous !» Point d'exclamation. « Nous sommes alertés ce soir que Pierre Rigaud, militant anti-chasse extrêmement actif sur les réseaux sociaux, est en train de solliciter des chasseurs dans le secteur de Saint-Pé-sur-Nivelle pour réaliser un reportage sur la chasse en palombière accompagné d'une soi-disant journaliste. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, tapez simplement sur votre moteur de recherche les mots Rigaud anti-chasse. Vous comprendrez mieux à quel oiseau de mauvais augure nous avons affaire. Rigaud est spécialiste des vidéos en caméra cachée qu'il utilise systématiquement contre la chasse. Ses montages sont évidemment partisans et malhonnêtes. Les prises de vue sont coupées pour ne conserver que celles qui pourront lui servir à monter un reportage à charge contre les chasseurs. La vérité est systématiquement travestie pour nous desservir et faire passer tous les modes de chasse pour ce qu'ils ne sont pas. Nous vous demandons de refuser poliment mais fermement, je crie parce que c'est en majuscule, toute sollicitation de sa part et de tout journaliste ou reporter improvisé qui viendrait vous demander de parler chasse avec lui. Attention, dès qu'il s'adresse aux chasseurs, il filme en caméra cachée à leur insu, une GoPro camouflée dans la doublure d'une veste, c'est pas compliqué, et retourne ensuite contre tout propos inconvenant, soyez très prudents. Voilà, donc le communiqué de la Fédération départementale des chasseurs du 64. Moi, je propose qu'on soit tous des Pierre Rigaud demain, en tout cas sur cette méthode d'avoir caché notre GoPro dans notre veste, puisque ça a l'air d'être très très drôle quand même, puisque ça leur fait quand même vachement peur à ces chasseurs. En tout cas, si ça leur fait pas peur, ça les énerve, mais ça les énerve. Ben voilà.
C'est à toi encore.
Ah, allez, il me reste 4 minutes, je vais essayer d'être rapide. Je voudrais vous parler de ce qui est en train de se passer sur le projet Bridor, c'est à Liffré, hein, puisque c'est vers Rennes, vous voyez par là-bas. On a ce groupe, le DUF, qui veut ouvrir une grosse usine industrielle de viennoiserie. C'est pour la congeler, et bien on pourrait envoyer de la boulangerie-pâtisserie dans tous les pays du monde. Ouais, c'est pas classe ça. Donc le groupe emploie 35 000 personnes, chiffre d'affaires en 2019 plus de 2 milliards d'euros.
Ouais, quand même, c'est un gros truc,
ouais. Ouais, donc, ah non, mais c'est un projet qu'on appelle inutile parce que c'est un projet qui saccage tout. En tout cas, c'est la position des militants et des militantes que nous allons évidemment soutenir dans cette émission. Mais ça agace le président Louis Le Duf, fondateur du groupe, qui dit qu'il ne peut pas attendre 10 ans pour un projet industriel. Hein, parce que lui, il veut implanter son usine. Alors, il y a 9 usines dans le monde, dont une à Cermont-sur-Vilaine, près de Rennes. Et là, donc, l'idée, c'est d'ouvrir un nouveau site. Alors, c'est pas du tout... c'est en Ille-et-Vilaine. Voilà, Liffré, je cherchais exactement. Et donc, en 2018, l'idée est d'ouvrir une nouvelle usine, mieux, plus grande, et qui pourrait embaucher 500 personnes, nous annonce-t-on. Et donc, là, vous sentez venir le chantage à l'emploi, hein, tout de suite. Je vous raconte la fin, ça sera plus rapide. Là, l'idée, c'est d'installer 11 lignes de production de pain croissant et autres viennoiseries, 650 tonnes par jour à destination de l'Asie et de l'Amérique. Et donc, il y a besoin d'un site de 21 hectares, et surtout, beaucoup, beaucoup, beaucoup de terrain et beaucoup d'eau.
Oui, parce que les viennoiseries, grosso modo, c'est de l'eau et de la farine.
C'est ça. Donc il y a une association qui s'appelle Colère, qui a été créée pour s'opposer à ce projet d'un autre âge, d'un autre temps, je les cite, puisque là ça va artificialiser les terres de bocage, qu'a priori c'est plutôt joli d'après ce que j'ai pu en voir en photo, que on va perdre de la surface agricole, on va avoir surtout beaucoup de dépenses en eau, puisque ça ferait 200 000 mètres cubes d'eau par an. C'est beaucoup. Voilà, beaucoup d'électricité, tout ça pour exporter de la viennoiserie.
Ouais, alors que, enfin, ils peuvent monter des petites usines en Chine ou aux États-Unis, fabriquer localement les viennoiseries, puisque tout le monde a du blé et tout le monde a de l'eau. Donc en fait, c'est un peu bizarre de fabriquer à un endroit ici
non,
pour exporter dans tout le monde.
La France, elle exporte, et que t'as pas entendu les publicités qui te disent nous aidons la France à exporter. Ouais. Ça, c'est on est quand même dans une. Le but, c'est d'exporter. Enfin,
ouais,
je veux dire, c'est ça.
Oublier la mondialisation.
Donc du coup, du côté de le Duf Bridor, donc on fait du chantage en expliquant que tant pis, on va développer des projets aux États-Unis, au Portugal et en Allemagne, et puis que c'est là-bas qu'on va créer de l'emploi. Donc ça fait rire parce que en fait Bridor est déjà installé dans ces pays. Donc en même temps aller dire qu'on va remplacer ce qui se passe ici par ce qui se passe là-bas, non, enfin, je veux dire c'est pas vrai. Mais par contre ce qui est marrant c'est qu'il y a quand même tout un tas de donc il y a évidemment le Guillaume Béguet, le maire de Liffré, qui espère lui que l'usine verra le jour parce que ça lui permettrait d'avoir 500 emplois de plus dans la ville. C'est en tout cas sur ça qui compte. C'est toujours le problème de ces maires de ces petites villes qui se disent que quand même l'industrialisation ça serait pas mal. Et puis du côté du groupe Le Duf, on met en avant cette idée que soutenue par Monsieur Macron, qu'il faut réindustrialiser la France. Donc, je ne sais pas si c'est ça l'idée de la réindustrialisation en vendant à l'export.
Des trucs qui vont partir en Chine ou aux États-Unis.
De la multinationale. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est en Chine, mais en tout cas, c'est en Asie.
En Asie, oui.
J'ai pas regardé précisément la destination, je vous avoue. Ce qui est marrant, c'est qu'il y en a qui lui répondent que oui, c'est bien, mais grâce à l'industrialisation de la boulangerie, on fait fermer des petites boulangeries aussi.
Voilà, qui fabriquaient localement et qui faisaient des trucs en plus souvent quand même meilleurs.
Donc ça voilà, enfin il y a une bataille donc sur place, il y a un nouveau rassemblement le 12 novembre à Rennes dans le cadre donc de la COP27. L'idée étant évidemment de toujours bloquer ce projet, de faire réagir les élus et de dire tu sais quoi, reste-y aux États-Unis, la mérite.
Voilà. Et c'est 20h.
Oh, pile poil, dis donc, qu'est-ce qu'on est bon. On va vous laisser, on se retrouve la semaine prochaine. Mmh.
Et voilà. C'est bonne soirée avec les bandes.
On espère que demain c'est un jour férié. On espère que vous allez le chômer. Si vous le chômez pas, on vous espère. On souhaite bien du courage pour ce jour férié travailler. Mais en tout cas, on pensera à vous.
Voilà. Même si on commémore pas le 11 novembre. Parce que commémorer les guerres, c'est préparer les prochaines.
Mais ça n'empêche pas que quand t'as un jour férié et qu'il est pas chômé, c'est triste.
Ouais, c'est encore plus triste.